Enfin, le sujet que j'avais annoncé, la justification. Mais je trouve que c'est important d'avoir commencé là où on a commencé, parce que si on faisait de la justification une question de mesure, 80% la grâce de Dieu, 20% la participation de l'homme, totalement à côté de ce mystère de la justice de Dieu. Donc, c'est très important, je crois, d'avoir situé ce mystère de la justification dans la totalité du mystère chrétien, l'amour de Dieu, d'où nous vient toute grâce, et notre réponse, qui est déjà le fruit de cette grâce, on va le voir ici. Donc nous avons pris conscience de l'amour de Dieu pour nous, réalisé qu'il attendait de nous une réponse, un engagement, pour que sa grâce, précisément, porte son fruit. Mais reste tout de même la question de l'articulation de cette grâce et de cette réponse. Et la part de Dieu, quelle est notre part? Comment comprendre cette articulation? Saint Paul oppose la justice qui vient de l'accomplissement des œuvres de la loi à la justice qui vient de la foi. La première est illusoire, mais elle est très fréquente. Pensons à la parabole de ce matin, le pharisien, le publicain. Le pharisien se situe dans la perspective d'une justice humaine. La justice nous est donnée en récompense, on pourrait dire, à nos œuvres. Le publicain, il est dans l'inverse. Sa justice lui est donnée gratuitement et totalement par la miséricorde de Dieu. La fin de l'évangile, rappelez-vous, c'est lui, le publicain, qui est reparti juste. La première, l'accomplissement des œuvres de la loi, est une forme, on pourrait mettre beaucoup de nuances, mais enfin, une forme de prétention d'acquérir le salut par nous-mêmes. La seconde, qui est conforme à l'enseignement de Jésus, est tout entière, enfin je dis la justice, hein, tout entière reçue de Dieu et de sa grâce, cette grâce qui suscite en nous la réponse de notre foi. Saint Jacques reprend dans ses épîtres cette question, en se faisant tout de même l'avocat d'une foi active, en insistant sur l'importance des œuvres de charité qui vérifient l'authenticité de la foi. On y reviendra, hein. C'est que l'on peut tirer de la pensée de Paul des conclusions contraires à l'Évangile. Dire si on prétendait que Paul néglige finalement le service du prochain. Si on dit la justice de Dieu nous est donnée uniquement par l'acte de foi, on semble oublier que nous avons des frères, d'entourage. Ça voudrait dire qu'à la limite, on pourrait être sauvé sans du tout s'occuper des autres. C'est un risque, hein. Mais Paul lui-même est bien loin de se désintéresser du prochain. Au contraire, rappelez-vous l'hymne à la charité de ce matin. Car saint Paul nous rappelle que la vraie foi, son expression à lui, agit par l'amour. Donc la foi est indissociable de l'action charitable. Ce point, il sera et il est encore l'objet de beaucoup de controverses dans l'histoire de l'Église. Excusez-moi si je remonte un peu loin, et puis si je suis très schématique, vous avez entendu parler du pélagianisme. Pélage était un homme, philosophe, on peut dire, qui vivait entre à peu près 360 et 422 de notre ère, hein, donc on est au 5e siècle, 4e, 5e siècle. Pélage prend le contre-pied de ce qu'on appelait le manichéisme. Le manichéisme avait une vision très pessimiste du monde et de l'homme. Et ce manichéisme gagnait certains mondes chrétiens. Alors Pélage, lui prenant le contre-pied de ce pessimiste, va au contraire valoriser le rôle de la liberté, le rôle de la volonté de l'homme. Et de ce fait, il minimisait le rôle de la grâce. Chacun, pour Pélage, a en lui-même la force nécessaire pour vivre de la charité, de la justice, de la pauvreté, de la chasteté, qui pour lui constitue toujours l'idéal de la vie chrétienne. Pour lui, encore une fois, la grâce de Dieu n'était qu'un petit complément, un secours, pour la volonté de l'homme, capable en lui-même, l'homme, d'atteindre son salut. Un petit peu comme j'ai vu l'autre jour un facteur qui avait un vélo. Dis-moi. Je lui ai dit, mais il est lourd votre vélo. Mais il m'a dit, mais oui, mais regardez, il y a un petit moteur pour dans les côtes. Alors, pour pélage, si vous voulez. C'est compréhensible, non? Donc, pour pélage, on peut très bien mener son vélo. Et puis, s'il y a quand même un petit effort à faire, il y a la grâce qui est là. Mais elle vient seulement en appoint. Elle n'est pas première. Pélage est foncièrement optimiste sur les capacités de l'homme et sa bonté native. Pour lui, le plus originel, ça n'existe pas. Ce courant, il nourrira, entre autres, un certain milieu monastique gaulois au 5e et 6e siècle. Augustin, qui est à peu près dans les mêmes dates que Pélage, 354-430. Augustin s'oppose à Pélage, partant, lui, de l'expérience douloureuse de sa jeunesse désordonnée. Il amène à poser sur l'homme un regard très pessimiste. Pour Augustin, l'homme de lui-même est esclave du péché, ne peut pas accéder au niveau de la foi et ne peut pas s'y maintenir. Seul, la grâce de Dieu peut le relever et le conduire à la sainteté. Vous voyez schématiquement deux positions totalement opposées. L'un très optimiste sur l'homme, l'autre pessimiste. Et ce débat, alors j'ai lu une chose intéressante qui m'a tellement frappé que je l'ai noté. Ce débat durera longtemps et il dure, savez-vous, encore aujourd'hui, sous des costumes des plus imprévus, mais qu'on peut quand même repérer. Alors, prenez ça avec beaucoup de temps. Ne m'agonisez pas d'invectives, mais j'ai lu qu'une certaine sensibilité, alors, tant pis pour les images, une certaine sensibilité de gauche et de droite en France, sont, on pourrait dire, héritières un peu de ces deux conceptions opposées. L'une, très optimiste sur l'homme, capable de tout faire, loin de Dieu, je vais mettre des images, hein. Et puis l'autre, non, tout nous vient de la grâce, donc ne touchons à rien. Maintenant, les structures qui gardent dans un esprit... C'est curieux, mais j'ai trouvé la réflexion intéressante. Donc ce débat qui peut nous paraître très lointain, il est en fait très actuel. Et si on a un regard trop pessimiste sur la société, par exemple, ben, on dévie un peu de l'espérance. Donc d'un côté, vous voyez, le progrès est une affaire de volonté, dépend de l'homme lui-même, qui n'a pas besoin d'une autorité lui dictant ce qu'il doit faire. Et pas de progrès possible en dehors de Dieu. Et par conséquent, maintenant, coûte que coûte, les structures sociales, ecclésiales, qui préservent un ordre chrétien. J'avance, je fais des bonds dans l'histoire. Luther se range plutôt dans la lignée d'Augustin. Poussera à l'extrême doctrine de l'incapacité de l'homme à faire le bien. Pour l'air, les bonnes œuvres, il emploie le mot, hein, dont l'homme est tenté de se prévaloir, sont le pire des péchés. C'est-à-dire que pour Luther, le pharisien de la parabole de ce matin, pécheur maximal, qu'il fait lui-même son salut avec ses bonnes œuvres. Pas besoin de Dieu. Il y arrive tout seul. Donc pour Luther, seule la foi nous apporte le salut, qui est un don gratuit venant de Dieu. Il faut nous rappeler que ce débat, 13e siècle entre autres, qui oppose Luther à Rome, se situe à l'époque de l'affaire. L'époque de l'affaire, c'était les indulgences. Construisez Saint-Pierre, pour avoir de l'argent, et de la générosité, mais la générosité a sorti. Donc Luther, entre autres, ça a été le grain de sable, ou plus que le grain de sable déraillé, va venir après Luther le concile de Trente, tout milieu du XVIe siècle, maintiendra, ça veut dire contre Luther, enfin malgré Luther, que la coopération de l'homme est nécessaire pour que la grâce porte du fruit. La grâce n'agit pas seule, mais le concile de Trente précisera que les œuvres bonnes réalisées par l'homme procèdent déjà de la grâce qui agit en l'homme. Au terme, nos bonnes œuvres sont le fruit de la foi, de la charité qui nous sont données. Nos bonnes œuvres ne sont pas la cause du salut. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui, mais tout de même, nous restons marqués de part et d'autre, hein, par une culture séculaire très ancrée chez nous. Par exemple, même si ce n'est pas vrai, si c'est excessif, on peut reconnaître que chez nous catholiques, et qu'en plus la grosse crispation qu'a été le jansénisme et ses suites, les catholiques sont plus proches, si vous voulez, de la pensée d'Augustin. Jansénius, entre parenthèses, voyait l'homme si corrompu par le péché originel que seule la grâce pouvait lui assurer le salut, et encore, enfin, jansénisme dur, hein, et encore la grâce, seule prédestinée, choisie par Dieu, les autres bénéficiant pas. Donc, voyez, la grâce reçue appelle donc la plus grande rigueur pour pas la laisser vaine. Voyez, c'est vraiment ce point, ce point de la justice de Dieu, hein, qui a été à l'origine de la rupture du point majeur. Il est intéressant de noter, ce point est très développé dans l'Épître aux Romains. Quand il s'est agi, c'est une traduction commune de la Bible qu'on appelle la Tob. C'est intéressant. On a commencé aux Romains. Donc le terrain le plus épineux. On a commencé par le plus dur. C'est beau. On aurait pu commencer par le plus facile, où on était tous d'accord. Là, on a commencé sur celui où, au contraire, on risquait de se fâcher. On y est arrivé. Récemment, en 99, il y a eu, chose étonnante, une déclaration commune, officielle, hein, ratifiée par Rome et ratifiée par l'instance luthérienne, une déclaration précisément sur ce terrain de la justification. Terrain où on s'était non seulement fâché, mais séparé, on a pu faire aujourd'hui, au XXe siècle, une déclaration commune. Mais, c'est-à-dire qu'on a été capable de faire une confession commune, s'est mis d'accord sur une même formulation de la conception de la justice de Dieu. On a accepté que chez les luthériens, il y a un accent mis davantage ici, et chez les catholiques, davantage mis là. Et on appelle, dans l'Église, où on a ces subtilités, l'on appelle un consensus différencié. Mais c'est beau qu'on a un paragraphe où ensemble on peut signer la même chose. Et après, deux petits paragraphes où on dit, mais chez plutôt sur cet aspect, chez les catholiques plutôt sur tel autre. Mais on est d'accord pour le... Vous vous rappellerez un consensus différencié. Donc, quand vous avez un conflit en famille avec les enfants, vous pouvez, avec ce consensus différencié, à la fois vous réconcilier ou être d'accord, tout en acceptant une nuance de part et d'autre. C'est intéressant, hein? On vous donnera une recette pour... Reconnaissons, puisque nous sommes catholiques, que la part des œuvres chez nous est parfois une part excessive. Rappelez-vous l'enfance de Thérèse, dont on parlait avant. Dans son enfance, c'était vraiment les œuvres qui étaient primordiales. Attendez, hein, l'amour de Dieu était bien là. Hein. Et on insistait vraiment beaucoup, beaucoup sur les œuvres. Et le risque, hein, c'est les scrupules qu'elle a eus, et puis une peur de mal faire. Bon. Alors, les catholiques, attention, n'ont jamais ignoré la grâce, jamais prétendu faire seul leur salut. Bien, c'est une conception très, très perverse, on pourrait dire, du catholicisme. Quand même, chez nous, nous pensions devoir mériter la grâce. Enfin, si j'en parle, c'est que je suis un homme, j'ai connu ça, hein, n'invente pas. J'ai tout de même mérité la grâce, pas connu ça, mais... Et il fallait la mériter par une conduite qui nous en rende dignes. Un peu comme si nous devions acheter par nos bonnes actions la reconnaissance de Dieu. Or, l'Évangile nous offre plusieurs exemples de posté de cet état d'esprit. Alors, ce matin, nous avions la parabole du pharisien du publicain. Pensez à la parabole des ouvriers de la 11e heure. Un père, qui était donc de la génération d'avant vous, il ne pouvait pas comprendre cette parabole de la 11e heure. Pour lui, il y avait une injustice fondamentale. Alors, c'est vrai que si on la regarde sous l'angle des heures payées, il y a quelque chose qui est qui est injuste, si vous voulez. Mais Jésus ne se place pas là. Il se place précisément sur le terrain de... Il est libre de... Enfin, il donne la grâce à tous. Qu'on ait travaillé 8 heures, 1 heure. Il ne se situe pas sous l'angle syndicaliste, si vous voulez. Mais si vous mettez sous l'angle syndicaliste, ben c'est vrai que Jésus, c'est pas son propos. Donc, il faut lire l'Évangile avec, excusez-moi, intelligence. Tant aussi d'autres... l'Évangile de Marthe et de Marie. Alors, en faisant attention, parce que Marie n'est pas la contemplative et Marthe l'active, c'est plus... C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer les deux. Priorité, écoute. En se sentant que il ne suffit pas d'écouter béatement et puis de faire. Hein. Une bonne écoute, elle met en œuvre ce qu'elle a entendu. Il fallait un rien à Marthe, être dans l'attitude juste. Marthe, elle se compare à sa sœur. C'est là qu'est le mal. Même que le pharisien, ce matin, l'évangile, il fait « Je ne suis pas comme... » Mais c'est pas dit. Je ne suis pas comme les autres hommes, j'ai entendu.
Si, je ne suis pas comme...
J'ai entendu, je ne suis pas comme les autres hommes. Alors, je croyais avoir lu, je ne suis pas comme ce publicain.
Oui.
Il a dit, je ne suis
pas comme les autres hommes.
Mais ça peut être les traductions liturgiques. Ah, on va avoir...
Ah, parce que les gens l'entendent, lui.
Mais c'est la Il est deux.
Il est aussi parfait des autres hommes, dit comme ce public. Hein.
Il y a un livre qui a omis
les autres hommes.
Je ne l'ai pas encore lu. Que je l'ai lu moi-même dans mon missel.
Oui,
je me suis dit, comment ça y est. Bon, ça y est, l'entendu. Vous voyez, on peut dire, la faute de Marthe, c'est de se comparer à Marie. Vous avez aussi la discussion de Jésus avec les pharisiens sur les traditions. Il ne dit pas que les traditions sont nulles, mais il dit qu'il y a plus important que la tradition, par exemple, de se laver les mains avant le repas. Quoique ça peut être bien quand même, mais surtout pour les enfants. Mais je veux dire que si on fait de lavage de mains la chose essentielle de la vie chrétienne, que ce soit important, oui, qu'on y tienne, oui, qu'on inculque aux enfants, oui, mais il y a une différence entre se laver les mains avant le repas. Et puis je prends au hasard hein, la messe du dimanche, c'est pas sur le même plan quand même. Faut pas tout confondre. Donc cette conviction que l'homme doit mériter la grâce, elle est vieille comme le monde. Je crois qu'elle est instinctive. Hein. Elle est ancrée dans toutes les cultures. Les prophètes, hein, donc ça remonte encore avant Jésus, la signalaient souvent. Mais déjà, ils la contestaient. C'est l'amour qui me plaît, non le sacrifice. La connaissance de Dieu. Je la préfère aux holocaustes. Pas d'aujourd'hui, hein, on est toujours... Amos est encore plus explicite. À Dieu, je déteste vos pèlerinages. Pas d'aujourd'hui, hein. Je ne puis sentir vos rassemblements. Et quand vous faites monter vers moi des holocaustes, dans vos offrandes, rien qui me plaise. Vos sacrifices de bêtes grasses, j'en détourne les yeux. Éloigne de moi le brouhaha de tes cantiques. Le jeu de tes harpes, je ne peux pas l'entendre. Et... que le droit jaillisse comme les eaux et la justice comme un torrent intarissable. Ça ne veut pas dire, hein, excusez-moi, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas dire ça. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chanter à l'église. Ça ne veut pas dire que, je ne sais plus, que le maître ait des ornements beaux et chers, beaux, qui se tiennent. Là, ce n'est pas qu'ils soient en guenilles. Mais ça veut dire que tout cela qui est très important, il faut le situer. Oui, on pourrait dire comme un fruit déjà de la grâce. À Lourdes, c'est pas pour faire un oncle qui avait été la dernière guerre peut-être, qui avait fait le vœu d'Ourdes à pied. Mais pas à Lourdes pour compenser une grâce que j'ai reçue. Je vais au contraire à Lourdes pour... Ah, le déplacement vaut, oui, la peine. Et écoutez, Jésus, par exemple, dans Matthieu 5, quand tu vas présenter ton offrande à l'autel, ça va très loin. Si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre quelqu'un, contre quelque chose que tout le monde, on attend qu'il vienne, laisse ton offrande et d'abord te réconcilier avec ton frère. Après, tu viendras présenter. Je vais là vous lire quelques extraits de Saint Jacques, entre autres, de l'Épître aux Romains. Donc si vous voulez suivre, si ça peut vous garder dans l'Épître de Saint Jacques au chapitre 1er. Saint Jacques commence ainsi. Soyez les réalisateurs de la parole, pas seulement les auditeurs. Ils abuseraient eux-mêmes. Quelqu'un écoute la parole et ne la réalise pas. semblable à un homme qui observe dans un miroir le visage qu'il a de naissance. Observé, il est parti et a tout de suite oublié de quoi il a l'air. Celui qui s'est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté, qui est appliquée, non en auditeur distrait, mais en réalisateur agissant, celui-là trouvera le bonheur dans ce qu'il réalisera. Quelqu'un se croit religieux, sans tenir sa langue en bride, en se trompant lui-même, vaine est sa religion. Pur et sans tâche devant Dieu le Père, la voici, visiter les orphelins et les veuves, se garder du monde pour ne pas se souiller. Le même Jacques qui enfonce le clou. À quoi bon, mes frères, dire que l'on a la foi si l'on n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle sauver? Dans ce cas, si on n'a pas les œuvres, dans ce cas, la foi peut-elle sauver? Et un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas de quoi manger tous les jours. Un de vous leur dise, allez en paix, mettez-vous, et bon appétit. Tant que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon? Même la foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte dans son isolement. Quelqu'un dira, tu as la foi, moi aussi j'ai des œuvres. Prouve-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je tirerai de mes œuvres la preuve de ma foi. Quoique Dieu est un, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils frissonnent. Veux-tu te rendre compte, pauvre être, que la foi est inopérante sans les œuvres? Alors l'on a Abraham, notre père, n'est-ce pas aux œuvres qu'il dut sa justice pour avoir mis son fils Isaac sur l'autel? Vois que la foi coopérait à ses œuvres, que les œuvres ont complété la foi et que c'est réalisé le texte qui dit Abraham eut foi en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Et il a reçu le nom d'ami de Dieu. Nous racontait l'ancien abbé de Ligugé, dans la règle de Benoît, pendant du carême, on a dit aux moines de choisir un petit effort, mais comme jamais décidé seul de ce qu'il fait, d'aller remettre ce désir à son abbé, et si l'abbé le juge bon, l'abbé lui remit qu'elle nous raconte, je ne sais pas si mais... Donc un frère arrive chez son abbé et lui dit, mon père, je voudrais, même comme je suis gourmand et que j'aime beaucoup le sucre, et de dessert, tout pense. L'abbé réfléchit et puis relève les yeux, regarde son frère et lui dit, mon frère, je demande de manger hors de carême. Le jeune là était sûrement plus important. Il fait connaître son frère et savoir qu'il avait une langue. Saint Paul maintenant, dans l'Épître aux Romains au chapitre 3e, Romains. Là, il précise que les œuvres, oui, de la grâce première, mais qu'en même temps, les œuvres sont nécessaires pour la fécondité de la grâce. Un peu comme les feuilles de l'arbre, si vous les coupez, l'arbre va mourir. Les feuilles qui sont, on peut dire, un fruit de l'arbre, vous les coupez, une comparaison qui vaut ce qu'elle faut. Nos œuvres sont le fruit de la grâce. Sans les œuvres, cette grâce ne porte pas. Dans l'Épître aux Romains, indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été manifestée. La loi et les prophètes lui rendent témoignage. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont gratuitement justifiés par sa grâce, en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. On le dira demain de Marie. C'est lui que Dieu a destiné à servir d'expiation par son sang par le moyen de la foi, pour montrer ce qu'était la justice, le fait qu'il avait laissé impunis les péchés d'autrefois au temps de sa patience. Il montre donc sa justice dans le temps présent, afin d'être juste et de justifier celui qui vit de la foi en Jésus. Y a-t-il donc lieu de s'enorgueillir? Comme le fin de ce matin, c'est exclu. Au nom de quoi? Des œuvres? Nullement. Mais au nom de la foi. Nous estimons en effet que l'homme est justifié par la foi indépendamment des œuvres de la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Si, il est aussi le Dieu des païens, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui va justifier les circoncis par la foi et les incirconcis par la foi. Enlevons-nous par la foi toute valeur à la loi? Bien au contraire, nous la confirmons. Vous voyez, il n'y a pas de risque. Ça ne peut être pas de risque à dire, si on est justifié par la foi, il n'y a plus rien à faire, attendons. Ça va vous donner des attitudes. Vous savez qu'autrefois, on se faisait baptiser le plus tard possible, parce que la confession, enfin le sacrement de réconciliation n'existait pas. Je parle des premiers siècles. Hein. Le baptême effaçait tous les péchés, mais si on était baptisé à 20 ans, de tenir encore 40 ans sans péché, comment faire? Donc on attendait l'an dernier, où là, recevant le baptême qui effaçait tous les péchés d'une vie, on était à peu près certain. Et à l'époque où on a institué le sacrement de réconciliation, mais qu'on pensait qu'on ne pouvait le recevoir qu'une fois, même pratique, parce que sinon c'était inviable. Ça veut dire que l'élaboration de la sacramentaire, oui, c'est fait avec...
Romains
3, chapitre 21-31. Et un autre, là c'est dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, versets 4 et 6. Si vous placez votre justice dans la loi, vous avez rompu avec le Christ. Vous êtes déchu de la grâce. À nous, c'est par l'Esprit, avec un grand E, hein, en vertu de la foi, que nous attendons fermement que se réalise ce que la justification nous fait espérer, c'est-à-dire le salut. Car pour celui qui est en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont efficaces, mais la foi, alors, agissant par l'amour. Donc, les deux. Hein. Donc cette vision de la justice de Dieu, pas la justice, la balance, hein, le pour le contre, nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes par Dieu. Que ça veut dire, hein. Dieu nous rend justes par sa miséricorde. Donc cette vision de la justice de Dieu est libératrice et source d'une profonde espérance. L'insistance trop exclusive sur les œuvres, les mérites, risquerait de développer un esprit de peur d'être jugé par Dieu, peur de ne pas pouvoir lui plaire, peur d'être damné. C'est-à-dire qu'on a confondu un peu le mot « justice de Dieu » avec ce que l'on peut appeler la justice rétributive des hommes. Œil pour œil, dent pour dent. C'est encore un grand progrès. Œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'avant, œil pour œil, dent pour dent, tu m'as cassé une dent, je te tue. Œil pour œil, dent pour dent, c'est déjà en progrès dans l'élaboration, si vous voulez, de la conscience. Mais ça ne dit pas tout. C'est-à-dire que, avec une insistance trop exclusive sur les œuvres, on risque de représenter Dieu comme juge qui serait prompt à châtier tous nos manquements. Or, une vision évangélique de la justification nous amène à un regard autre sur notre Dieu. C'est sa miséricorde qui prime. Son désir de nous associer à la Pâque du Christ qui est premier. C'est sous cet angle les épisodes de l'Évangile où Jésus accorde son pardon aux pécheurs, mettant d'abord en valeur leur foi. Pécheresse pardonnée dans Saint Luc au 7. Bien, le récit de la conversion de Zachée dans le même Évangile de Luc au chapitre 9e. Regardez aussi le petit récit très court, hein, l'offrande de la pauvre veuve dans Marc au chapitre 12. Elle met en nickel, là, et aux yeux de Dieu, a infiniment plus de valeur. Vous savez ce que c'est qu'une quête silencieuse?
Oui.
Bon, eh ben, aux yeux de Dieu, parce que c'est qu'une quête silencieuse, quête où il n'y a que des billets, pas de bruit. Une quête silencieuse qui fait le bonheur des prêtres, aux yeux de Dieu, a plus de valeur qu'une quête. Il n'y a que des toutes petites piécettes. Alors, la confiance que devrait développer en nous cette juste conception de la justice de Dieu ne nous dispense pas, encore une fois, de rester vigilants, et elle nous responsabilise, au contraire, en donnant à tous nos engagements le sens d'une mise en valeur des dons de Dieu. Je vous renvoie à la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25e, ou à l'autre parabole, celle des serviteurs que leur maître a établi gardien de ses biens et de sa domesticité dans Saint Luc au chapitre 12e. On attribue cette célèbre parole à Saint Ignace, mais je crois que d'autres que lui l'ont dit. Alors, je ne la cite pas de mémoire, mais j'en cite le contenu. Faisons tout comme si Dieu n'existait pas. Oui, hein. Faisons tout comme si Dieu n'existait pas, c'est-à-dire faisons tout avec professionnalisme, avec conscience, mais en même temps, soyons conscients que tout ce que nous faisons, nous ne pourrions pas le faire sans lui. Obtenir les deux. Que veut dire saint Paul quand il déclare que sans l'amour, nos actions les plus généreuses, extérieurement, hein, sont creuses. C'est le texte que nous lisions ce matin dans la première aux Corinthiens, chapitre 13. Donc la confiance en la grâce n'est pas une incitation à la paresse, au contraire, une invitation à faire porter du fruit au don de Dieu. Sinon, Dieu va donner, mais ça ne produira rien. Dans ce sens, nous pouvons lire le récit du jugement que saint Matthieu introduit juste avant la passion du Christ. « Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Un étranger, vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venu à moi. » Et cette foi nous amène à voir, à poser sur le monde et sur les autres un regard tout autre, le regard même du Christ. De cette méditation, on retenir que Dieu ne nous attend pas, comme on dit vulgairement, au virage d'une défaillance ou d'une infidélité, genre des termes vulgaires pour nous tomber dessus et nous accuser, mais au contraire, il marche avec nous, même dans les passages difficiles ou les passages à vide, pour nous tirer toujours des mauvais pas qui arrêteraient notre marche. Est forte cette phrase que saint Paul dit dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5. Jésus, qui n'avait pas connu le péché, pose une question. Dieu ne l'a-t-il pas, pour nous, identifié au péché, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu? Donc la joie et l'espérance qui devraient toujours prévaloir après un jour, sachant que si nous voulons témoigner de cette joie et de cette espérance, faut que nous fassions quotidiennement l'expérience d'être nous-mêmes les premiers bénéficiaires de la miséricorde, de la confiance de Dieu. Vous allez, enfin vous irez sûrement à la vigile pascale dans 3 semaines, que dans le chant, et à un moment donné cette phrase étonnante, en gros c'est ça, « Oh l'heureux péché, nous vaut un tel rédempteur. » Comment ? Ou l'heureuse faute, « Oh l'heureuse faute qui nous vaut un tel rédempteur. » Même un peu fort. Alors, ça ne veut pas dire, comme vous êtes un prédicateur jésuite, mais allez-y, péchez grassement. Vous voyez des jésuites et vous êtes sauvés. Bon. C'est pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire, plutôt que de dire, je suis un pauvre type, je ne vaux rien. Non. C'est le publicain de ce matin. Plus à la miséricorde de Dieu. Dieu est venu, c'est pas pour les bien portants. Enfin, si Jésus est venu, c'est pas pour les bien portants, mais pour les malades. Alors, on parlait ce matin comment témoigner. On a l'exemple de la Samaritaine de dimanche dernier. Elle va quand même être regardée par ses compatriotes d'un œil un peu. Or, après sa rencontre avec Jésus, elle revient à la ville et elle invite ses compatriotes. Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? Elle pose une question. Eux vont se déplacer et à la fin, ils vont dire, nous croyons, mais pas tant parce que tu nous as raconté. Nous l'avons entendu. Donc nous avons les vêpres dans 20 minutes.